T'as entendu, t'as vu, un concours, un appel, ohé, à écriture, ah bon, roman, fiction, contrainte, nombre de signes, questions avec ou sans faute, combien de jours encore, réponse, c'est parti ou ça commence ? Un nouveau prix littéraire est né, vous le savez peut-être ou vous le découvrez, un prix intitulé Voix d'Afrique est destiné aux écrivains et écrivaines du continent que les éditions Jean-Claude Lattès et nous-mêmes RFI avons décidé de débusquer. On vous raconte tout aujourd'hui avec Anne-Sophie Stefanini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice littéraire aux éditions JC Lattès. Ça veut dire quoi, directrice littéraire ?
Directrice littéraire, c'est éditrice. Ça consiste à accueillir, recevoir des manuscrits. Alors, moi, mon domaine, c'est la littérature française, avec tout ce que ça veut dire comme horizon et comme auteur venu d'ailleurs, mais écrivant en français. Et ça consiste à recevoir ces textes, à accueillir ces auteurs et à accompagner l'auteur dans l'écriture ou dans la publication de son roman.
Mais vous êtes la femme qui dit oui ou non quand un manuscrit arrive, vous voyez le côté couperé ?
C'est vrai, on a ce travail de choisir des voix, et c'est le lien évidemment avec le nom de ce concours, Voix d'Afrique, dont l'objet va être de dire oui à un jeune auteur de moins de 30 ans qui écrit son premier roman.
Alors vous imaginez en effet des collections ou des événements comme ce prix Voix d'Afrique avec une conviction, me semble-t-il, c'est qu'il y a des talents cachés et des talents en devenir en Afrique tout particulièrement.
Oui, exactement. En fait, ça fait longtemps que les éditions Lattès avec RFI ont eu envie de créer, de lancer ce concours Voix d'Afrique. Et je crois que notre conviction, en discutant avec les auteurs d'Afrique qu'on publie chez Lattès, comme Abdourahmane Waberi, Sami Tchak, Henri Lopez, Patrice Gagnang et tant d'autres, ça a été de se rendre compte qu'il y avait en Afrique, dans les lycées, les universités, parmi ceux qui fréquentent les alliances, les centres culturels, des jeunes garçons, des jeunes femmes qui écrivent leurs premiers textes. La difficulté, bien sûr, c'est de se faire connaître, d'envoyer ce premier manuscrit pour qu'il soit publié. Et l'histoire de ce concours, c'est de donner cette chance-là. Non pas qu'on soit la seule façon d'être publié, il y a mille manières d'envoyer son texte à un éditeur et de réussir le chemin formidable et périlleux de la publication, mais l'appel à manuscrit, le concours, la chance donnée à un auteur, c'est une occasion formidable.
Alors, on racontera ce que vous avez imaginé, ce que nous avons imaginé ensemble, puisque RFI est associé aux éditions Lattès, avec une expertise aussi en matière d'appel à écriture, d'appel à concourir, le prix découverte pour la musique ou le prix théâtre pour des auteurs dramatiques. Mais son nom n'a fait aucun doute. À l'unanimité, il a été désigné président du jury et c'est Abdourahmane Waberi. Bonjour monsieur le président.
Bonjour monsieur Paradeux.
Monsieur Taucourt, est-ce que vous partagez cette analyse d'Anne-Sophie Stefanini qu'il y a des talents cachés particulièrement en Afrique ?
Écoutez, je suis certain qu'il y a des talents cachés partout en Afrique parce que je reviens là de Lagos. Et pour ce coup-là, j'avais pas rencontré des écrivains ou d'écrivaines qui me proposaient des manuscrits, mais quand je vais à Dakar, à Bamako ou ailleurs, il y a toujours un étudiant, une étudiante, un écrivain, une écrivaine, dont je sais rien du talent puisque j'ai pas lu, mais qui a une envie de publier et qui me demande des astuces, qui simplement est curieux comment j'ai fait moi. Et je lui dis, ben moi, il y a longtemps, j'avais aussi participé au concours de la nouvelle des RFI. J'étais même plusieurs fois en shortlisted, on va dire, remarqué. Et une fois, j'avais eu le bonheur d'être dans l'anthologie Michel Racotosson avait publié à l'issue du concours. Et donc voilà, c'est une manière de se faire la main. Et je trouve que le RFI de ce point de vue-là, joue un rôle très important. C'est vraiment un tremplin. C'est une manière de à la fois d'être lu, d'être testé, d'être confronté, alors que l'autre biais, c'est parfois d'envoyer un faux éditeur, il y en a à Paris aussi, qui vous demande de l'argent. Et ça, c'est vraiment un problème. Il faut expliquer aux gens qu'il y a des vrais éditeurs, il y a des choses qui s'auto-éditent, et donc c'est RFI, et ces prix fait partie de ces choses tout à fait normales et qui sont la voie la plus raisonnable.
Alors, on précisera dans un deuxième temps les modalités de participation à cet appel à écriture. Je préfère le mot appel à écriture à concours. Je sais pas vous, moi j'aime pas énormément le mot de concours. Ça voudrait dire qu'il y en a un qui est très très fort et que les autres ne le sont pas, alors que peut-être il y aura 20-30 auteurs formidables et que le choix sera cornélien, Abdourahmane Ouaberi. Vous vous préparez à ça?
Évidemment, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que j'explique aux gens, d'ailleurs à Lagos, j'ai expliqué à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un livre, que ce soit une pièce de théâtre, une nouvelle, un roman envoyé, il doit être confronté, il doit être sanctionné par des gens qui ont l'habitude de la chose littéraire. Vous voyez, sinon, j'ai payé 1000 euros et je dépose quelque part. Vous voyez, il faut qu'au moins, même si... Donc l'idée de concours ne me déplaît pas de ce point de vue-là. Même s'il y a 100 manuscrits proposés ou 1000 manuscrits déposés, il faut qu'il y ait un regard de quelqu'un qui dise « mais ça relève de la littérature, ça c'est de la sociologie ou c'est une thèse ou autre chose. »
Mais des fois le deuxième prix, enfin il n'y a pas de deuxième prix, mais le deuxième candidat ou troisième peut être tout aussi intéressant que le premier. Il y a aussi une subjectivité
Jurys. Je ne suis pas dans le classement, moi je parle juste la sanction.
De la même manière qu'il y a une subjectivité dans les comités de lecture qui choisissent les textes. On a tous en tête le formidable prix théâtre qui avait couronné à de nombreuses reprises Sonny Laboutancy. Ça a été un élément extrêmement fort dans sa voie vers ses romans et en particulier Une vie et demie. L'idée de cet appel à écriture, c'est que tous les manuscrits qu'on va recevoir refléteront la diversité du roman. Ça sera des textes peut-être très intimes, qui raconteront un drame familial, une rupture, un chagrin, et ce sera peut-être des manuscrits au contraire traversés par les voies du monde, les bouleversements politiques, une grève, une manifestation, une arrestation, et on choisira avec la subjectivité mais en tenant compte de tous ces talents.
Alors Anne-Sophie Stefanini, Abdourahmane Ouaberi disait il faut faire attention aux faux éditeurs, aux éditions à compte d'auteur en fait, il faut s'adresser à des éditeurs professionnels solides, c'est le cas bien évidemment des éditions La Thèse, mais tout le monde ne le sait pas forcément. C'est une maison d'édition importante qui a été créée dans les années 70 et qui a toujours été attentive, vous l'avez dit en nommant quelques auteurs, oui, à la pluralité de la littérature.
Oui, les éditions La Thèse ont été créées très exactement en 1968 par le fondateur Jean-Claude La Thèse. Aujourd'hui, elles appartiennent au groupe Hachette, au même titre que Grasset ou Stock ou Fayard. C'est une maison d'édition généraliste avec une attention toute particulière pour la littérature et pour la découverte de nouveaux talents, avec un nombre de publications de premiers romans important, parce que pour un éditeur, découvrir une nouvelle voie, l'accompagner de livre en livre, c'est une des choses les plus importantes de notre métier, une des gratifications. Et l'idée de ce prix est née évidemment de la volonté de découvrir plusieurs talents, d'en choisir un et de l'accompagner de livre en livre.
Alors ce lauréat, cette lauréate sera éditée en France par les éditions La Thèse, mais aussi, et c'est très important, dans le pays d'origine, en coédition. Il ne s'agit pas d'exfiltrer des talents ou de refaire du centralisme culturel.
Non, on n'est pas dans le marché des transferts des joueurs de foot. Il n'y a pas de perte de talent, au contraire. L'idée, c'est que évidemment le texte soit publié chez nous, aux éditions La Thèse, mais en coédition, bien évidemment, avec une maison d'édition africaine dont le lauréat est originaire. Et il y a de magnifiques maisons d'édition d'Alger jusqu'à Madagascar qui font vivre les littératures africaines. L'idée, c'est également que le jury soit composé d'éditeurs, de journalistes de RFI, de blogueurs qui soient et qui vivent à Paris ou alors en Afrique.
Alors ce prix Voix d'Afrique, comme d'autres événements, donc pour effet, pour vocation de partager un savoir, de partager de la culture, sujet de notre chronique ailleurs. Et c'est à Dakar que tout se passe cette semaine avec les ateliers de la pensée, plateforme, rencontre imaginée par deux philosophes, Achille Mbembe et Felwine Sarr, qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour Felwine Sarr.
Bonjour Pascal.
Il s'agit de la troisième édition de cet événement. Je crois que vous dites plateforme et une cinquantaine de personnalités sont attendues.
Oui. En fait, c'est une plateforme que nous avons créée en 2016 et il s'agissait de réunir des intellectuels, des artistes du continent africain et des diasporas pour reprendre le chantier de ce qu'on appelle une réflexion sur le réel et le devenir des Afriques.
Et il s'agit donc d'analyser le monde à partir de l'Afrique, donc un peu de décentrer la pensée.
Oui, parce que nous sommes pris dans des problématiques globales, les mobilités, les questions climatiques, et la plupart du temps, les points de vue sont des points de vue, je dirais, sud-américains sur la marche globale du monde, et il nous a semblé important, à partir d'autres lieux, de porter un regard sur nous-mêmes, mais aussi sur les dynamiques globales qui nous traversent. Et c'est important de le faire aussi à partir d'ici, quoi.
Qu'est-ce qui va se passer pendant 3 jours, Felwine Sarr?
Durant 3 jours, on aura ce qu'on appelle des ateliers, donc des tables rondes sur les thèmes de la dévulnérabilisation et des basculements du monde. Donc plusieurs intervenants viendront livrer leur expertise. Cette expertise, elle sera mise en discussion et en débat. Et le dernier jour, on aura ce qu'on appelle la nuit de la pensée où le public est invité à interagir avec ces derniers. Donc durant 3 jours, on va décliner la problématique des ateliers sous forme de table ronde, de workshop, de débat. Il y aura aussi une programmation artistique. Et enfin, tout le monde sera invité à discuter de tout ce qui aura été mis en chantier et en atelier.
Qu'est-ce que vous entendez par dévulnérabilisation du monde? C'est un des thèmes de ces ateliers. C'est un concept que vous inventez?
En fait, ce qui se passe, c'est que les groupes humains en Afrique, mais aussi ailleurs en Asie, sont à la croisée de plusieurs vulnérabilités économiques d'abord, sécuritaires, climatiques, symboliques, politiques, psychologiques. Et la question que l'on se pose, c'est comment les dévulnérabiliser? C'est comment trouver des pratiques sociales qui existent, des méthodes, des espaces de soins, de cure, de résilience pour rendre ces groupes moins vulnérables à tous ces chocs. Donc il y a des gens dont c'est le travail, les gens qui travaillent sur les problématiques de sécurité humaine, de sécurité alimentaire. Il y a des artistes qui utilisent les arts pour guérir des traumas issus d'expériences génocidaires ou de crimes de masse. Il y a des minorités qui luttent pour faire valoir les droits, donc des minorités, les droits politiques dans toutes ces expériences-là qui rendent les groupes humains moins vulnérables à un certain nombre de chocs. Donc on aimerait les mettre ensemble, y réfléchir et produire de l'intelligence sur la question de la vulnérabilité. Souvent, on pointe du doigt le changement climatique qui est en fait, mais l'anthropisation rend vulnérables nos écosystèmes et faire la science naturelle de ces écosystèmes-là. Donc, de plusieurs points de vue, il y a une réflexion intersectionnelle à mener, en fait.
Il y a de la transversalité, et c'est un peu la particularité de ces ateliers de la pensée de Dakar, c'est que des chercheurs de tous horizons se retrouvent et de toutes disciplines se retrouvent pour penser le monde.
Oui, des chercheurs de tous horizons, de toutes disciplines et aussi des artistes, puisqu'on estime que l'espace de l'art est aussi un espace de réflexion, d'intelligibilité, de compréhension du monde. Et on estime qu'à l'heure actuelle, les problématiques sont tellement difficiles et complexes qu'il faut croiser les disciplines et aller au-delà des cloisons disciplinaires classiques d'une part, mais qu'il faut aussi que l'on se fonde sur plusieurs archives, des archives africaines, asiatiques, nord-américaines, occidentales, et aussi il faut qu'on aille chercher dans les espaces à la fois de l'innovation et dans la mémoire ancienne des groupes humains, et que ce n'est que dans ces espaces-là, d'une grande pluralité que l'on peut trouver, aussi une pluralité de réponses à des situations qui sont des fois extrêmement modifiées à démêler.
Merci beaucoup Felwine Sarr, ces ateliers de la pensée commencent donc ce mercredi au musée des civilisations noires de Dakar, pour se terminer samedi par une nuit de la pensée à l'Institut français, après un concert vendredi de Rokia Traoré.
Un grand merci.
Plénitude.
Amour, extrait du dernier album en date de Rokia Traoré à Dakar ce week-end et sur RFI pour cette émission consacrée au prix Voix d'Afrique créé en partenariat entre RFI et les éditions Jean-Claude Lattès, représenté aujourd'hui par Anne-Sophie Stéphanini, sa directrice littéraire, et Abdourahmane Waberi qui sera donc le président du jury. Un président intraitable, bienveillant, incorruptible forcément. Dans quel état d'esprit vous allez présider ce jury, Abdourahmane ?
D'abord incorruptible, ça c'est certain, puisqu'on voit pas les gens, ils en voient par la plateforme, n'est-ce pas ? Et bienveillant, bien sûr, parce que j'ai sais ce que c'est que d'être écrivain et d'envoyer un manuscrit et d'attendre. Intraitable aussi, certainement, parce qu'il faut bien faire le travail et il faut bien, moi je tiens à ça, il faut bien expliquer aux gens qu'il y a des livres qui relèvent de la littérature et puis il y a d'autres choses qui sont envoyées, qui sont nécessaires peut-être pour l'expression de cette personne, mais qui ne tombent pas dans les domaines littéraires.
Alors le jury sera composé par vous-même, Abdourahmane Waberi, par des journalistes, Catherine Fréchon-Toussaint par exemple au nom de RFI, d'éditeurs bien évidemment, de libraires du Nord, du Sud, toujours dans cette idée de non-accaparement d'une certaine façon et de partage. Comment ça va se passer concrètement, Anne-Sophie Stéphanini? On va donner le mode d'emploi et je vais me permettre de prendre un coup de jeune. Je suis un jeune,
allez,
regardez-moi, je suis un jeune écrivain, j'ai 32 ans. C'est crédible, pas tout à fait, mais c'est pas grave, on va jouer.
Si, si.
Est-ce que je peux concourir, j'ai 32 ans?
Non. Vous ne
pouvez
pas. Alors, il fallait des critères et notre critère, c'était de donner leur chance à de jeunes écrivains et d'interroger les vocations premières, celles qui naissent au collège, au lycée, sur les bancs de la fac ou dans les centres culturels. Donc, le critère, c'est d'avoir moins de 30 ans, d'être majeur et d'avoir moins de 30 ans.
J'ai 17 ans.
Non.
Non plus.
Hélas. Mais vous écrivez et vous continuez à écrire et vous nous envoyez votre texte l'année prochaine.
Bon. Alors j'ai écrit une nouvelle de 10 pages, super bien. C'est de la science-fiction avec un super héros qui a des super pouvoirs, dont par exemple celui de faire taire Trump. Est-ce que je peux concourir ?
Là, c'est formidable, mais là aussi vous ne pouvez pas concourir. Y a des prix de nouvelles. Là, c'est un prix qui couronne un premier roman. Premier roman. Le nombre de pages que vous voulez, il peut être très court. Il faut qu'il fasse moins de 250 000 signes.
Ce qui n'est pas très long, 250
000
signes.
Ce qui n'est pas long. Et c'est pour ça que l'appel que j'adresse là aujourd'hui à tous les jeunes garçons et les jeunes femmes qui écrivent et qui ont commencé un texte, c'est de se saisir de cette opportunité formidable offerte par RFI et par les éditions Lattès. J'en appelle aussi à ceux qui côtoient ces jeunes écrivains en herbe, les professeurs, leurs parents, les directeurs des centres culturels, des alliances, ceux qui voient un homme, une femme écrire et à leur dire voilà, c'est votre chance. On sait l'importance des premiers textes. Moi, je garde un souvenir ému de tous les premiers romans des grands auteurs, de Mongo Betty, Ville Cruelle, à Amadou Kourouma, Le Soleil des Indépendances. Et il n'y a pas de thème obligé. Bien au contraire, le roman avec toute sa diversité, de l'intime à des textes traversés par l'histoire ou par l'actualité.
Mais du roman, pas
mais
de poésie,
roman. Pas d'essai. Pas d'essai.
Et il faut que ce soit bien évidemment inédit. Donc si
exactement,
le livre est publié dans une maison d'édition locale, en principe ça ne fonctionne pas.
Exactement, ça doit être une première œuvre.
En revanche, le livre peut avoir été écrit il y a un an
bien
ou
sûr,
il y a deux ans. Et tout d'un coup, on le ressort du garder tiroir, comme on dit.
Garder dans un tiroir ou au contraire travailler comme chaque écrivain partout dans le monde, inlassablement, page après page, et envoyé.
Et il est envoyé à une adresse. On
exactement,
va donner l'adresse parce que c'est très important.
Alors,
derrière cette adresse, il y a une plateforme qui va lire tous les textes, va vous les envoyer. Une première sélection sera faite et une dizaine d'ouvrages à peu près seront soumis au jury. Je vous rassure, Abdourahmane Waberi, s'il y a 1000 livres, vous n'aurez pas 1000 manuscrits à lire. Donc, quelle est l'adresse?
Alors, l'adresse exacte, c'est prix-RFI. Point édition au pluriel tiret jclattes lattes point fr. C'est une plateforme qui va recevoir les manuscrits et on va en effet tout lire. Ça va être la grande chance de ce concours, c'est qu'on lira tout, on donnera leur chance à chacun et ensuite on fera une sélection d'environ 6 textes qui seront lus par le jury.
L'appel à écriture a été ouvert le 1er octobre.
Mmh.
Il court jusqu'au 15 janvier.
15 janvier 18h.
Est-ce qu'il y a déjà des textes que vous avez reçus à Sophie Stéphanini ?
On est très heureux parce qu'il y a déjà 130 inscrits sur...
130
inscrits sur là. Mais on peut prendre les paris, moi je crois qu'il y en aura beaucoup. Et je l'espère vivement. On a 130 inscrits et on a déjà 7 textes.
Alors parmi les participants qui se sont déclarés, l'un d'entre eux est en ligne et c'est Franck. Bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Quelques présentations, quel âge avez-vous, où êtes-vous, que faites-vous?
Alors, je m'appelle Franck Gislain Anguéné, je suis un jeune Camerounais, je vis à Yaoundé, j'ai 26 ans, je suis enseignant en marketing du sport, je suis également expert consultant en marketing international du sport et également journaliste. Et puis, depuis très récemment aussi, un jeune écrivain.
Vous avez connu ce prix Voix d'Afrique comment ?
Disons que c'est en écoutant une édition du journal de RFI que j'ai entendu parler du prix Voix d'Afrique. Alors, j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur le site de RFI et donc j'ai vu les modalités par lesquelles on pouvait participer. Donc, c'est ainsi que j'ai accédé à la plateforme et donc je me suis inscrit.
Jeune écrivain, ça veut dire quoi? C'est que vous aviez déjà un manuscrit que vous allez envoyer ou vous allez écrire exprès?
Alors, j'étais en train de boucler un manuscrit justement. En fait, je pense que c'est ce qui m'a d'ailleurs marqué, c'est que le jour où j'ai entendu parler du prix, c'est le jour où je bouclais justement mon manuscrit. Et donc, je me suis dit, tiens, bah voilà peut-être une opportunité. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, quand j'ai pu avoir accès à la plateforme, j'ai simplement balancé le manuscrit. Et puis voilà.
En deux mots, sans influencer le jury et le président du jury qui vous écoute, ce roman s'appelle comment? Il raconte quoi?
Alors disons que le roman s'appelle Madiba et le peuple arc-en-ciel. C'est une fable, c'est un roman raconté sous le modèle d'une fable qui est donc inspiré de la vie de Nelson Mandela. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de présenter la lutte de Nelson Mandela et surtout la lutte de ses compagnons, en l'occurrence Winnie Mandela, dans un cadre purement fabuleux. Et c'est un peu ce qui fait la magie de l'ouvrage.
En France, on dit merde. On dit comment au Cameroun pour souhaiter bonne chance?
Pour souhaiter bonne chance au Cameroun, on dit bonne chance. On dit bonne chance si on parle français, mais si on parle ma langue maternelle, on dit ndondonzam.
Eh bien, ndondonzam, je suis pas sûr d'être très fort.
D'accord, merci beaucoup Pascal Paradou et merci à tous les auditeurs de RFI.
Alors qu'on se le dise, ce coup de fil ne veut pas dire que c'est lui qui a gagné, Anne-Sophie Stéphanini. Ah oui. Puisqu'il y en a déjà 130 qui ont envoyé leurs manuscrits ou qui se sont inscrits, et il y en aura bien évidemment d'autres d'ici le 15 janvier. Alors gagner quoi d'ailleurs? Il y a l'édition Lattès et dans la maison d'édition locale du pays originaire du lauréat. Il y a aussi un séjour à la Cité internationale des arts qui est un des partenaires du prix. Et exactement. La Cité internationale, c'est une fondation privée qui est d'ailleurs désignée comme l'un des trois pôles francophones qui accueille et accompagne des artistes. Donc, ce sera un peu comme ça, du sur-mesure. Le jeune homme ou la jeune femme qui gagnera pourra résider à Paris, à la Cité internationale, avec vue sur la Seine et sur Notre-Dame, ce qui est quand même pas mal. Et il y aura une soirée aussi à la Maison de la Poésie qui est dans les tuyaux, mais on va quand même pas raconter toutes les surprises qui seront prévues pour ce lauréat. Abderrahmane Ouaberi, c'est quoi un bon roman? Grave question. Est-ce que, par exemple, s'il y a des fautes d'orthographe, est-ce que pour vous, ça peut le faire ou ça le fait pas?
Non, les fautes d'orthographe, c'est pas très important. Enfin, je veux dire, évidemment, il faut que ça soit écrit en français. Mais je veux dire, même les journalistes font des fautes d'orthographe. Si ce sont des coquilles, ce qu'on appelle des coquilles, les excellentes éditions Jean-Claude Lattès vont aider l'auteur. Il faut un bon roman, il doit être engageant. Il doit d'abord être porté par la personne, hein, la femme ou l'homme qui l'écrit. Franck nous expliquait comment il a retravaillé les mythes des Madiba. Pourquoi pas, hein, ça peut être une entrée comme ça. Mais en tout cas, un roman, il faut qu'il y ait un besoin intérieur. Il faut que la personne ait envie de porter cette histoire-là. Et une fois qu'elle s'est elle-même convaincue et qu'elle a vécu, habité cette histoire, elle peut plus facilement la faire partager. Et du coup, on sera attentif à l'énergie intérieure qu'il y aura dans cette œuvre en gestation. Donc ça doit être porté. C'est pas quelque chose qu'on fait entre midi et 14h, n'est-ce pas? Il faut une exigence intérieure.
Vous vous souvenez de votre premier roman, Abderrahmane Ouaberi?
Ah, je me souviens. souviens de mes premières nouvelles que j'avais envoyées à RFI et quand j'étais pour une fois dans la sélection, j'étais très très content. Mon premier roman a été publié un peu plus tard puisque j'avais déjà deux recueils de nouvelles publiées, mais j'avais moi choisi un peu le genre de la nouvelle pour m'exercer, c'était une très bonne idée. Mais en tout cas, le jour où vous recevez le premier coup de fil d'un éditeur, j'ai fait une danse indienne autour de ma table de cuisine, hein. Non, je vous assure, c'est vrai.
Alors aujourd'hui, vous venez de publier votre 12e roman chez Jean-Claude Lattès, il n'y a pas de hasard, Pourquoi tu danses quand tu marches. C'est un texte très autobiographique puisque le titre renvoie à une phrase prononcée ou supposée prononcée par votre petite fille qui s'interroge sur l'attitude et la marche de son père qui claudique et elle lui dit mais pourquoi tu danses quand tu marches. C'est une très jolie phrase, c'est un texte très autobiographique. Est-ce que c'est un roman? Où vous situez la frontière?
Ah oui, c'est parfaitement un roman. C'est mon 12e livre en fait, c'est mon 6e roman, mais c'est mon roman le plus personnel et il est né d'un dialogue authentique avec ma fille, mais à part la vérité des émotions, il y a une grande partie du roman qui est une orchestration fictionnelle, et donc c'est un roman par exemple, il y a des personnages inventés, il y a des situations inventées, et ce que j'appelle la marqueterie, l'arrangement, le montage est aussi inventé, mais ce qui est vrai c'est l'authenticité du dialogue, ou en tout cas les besoins personnels de discuter avec cet enfant qui me posait à la fois des questions véniales et aussi des questions profondes du genre qui sommes-nous, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous sur cette terre, etc. Et donc cet enfant, j'ai dit, je vais le prendre à charge de manière très sérieuse. C'est pas, je ne peux pas lui répondre comme ça légèrement. D'où le roman et l'engagement sur 2-3 ans. Puisqu'un roman, aussi, il faut le dire à nos auditeurs, c'est un travail de longue haleine. Ça prend 2 ans, 3 ans, ça prend. Voilà. Il faut une vraie exigence intérieure, il faut que ça soit porté.
Vous insistez beaucoup sur l'exigence intérieure. Hein.
Oui.
Ça ne peut pas être comme ça, un hobby juste, l'écriture.
Oui, en tout cas, on va pas loin. On peut avoir un talent fou pour faire un hobby et faire un coup d'éclat, mais on va pas loin en général. Vous voyez, il faut que ça soit un peu habité. Vous parliez tout à l'heure, on parlait de Sonny Labutansi, c'était très habité. Kuruma, le premier livre de Kuruma était une lettre qu'il a envoyée d'ailleurs, il va envoyer partout, hein, et ça va être entendu au Canada, au Québec. Et c'est du Québec que le roman va nous revenir aux excellentes éditions du Seuil. Mais il voulait, à cette époque-là, sauver des gens, hein. Donc, un roman, c'est une question de vie ou de mort parfois, hein. Donc, il faut vraiment que ça soit porté.
Alors, une nouvelle voix va se faire entendre dans quelques mois ou dans quelques semaines, au début du mois de mars. On connaîtra le lauréat. Exactement. Ou la lauréate, j'insiste, parce qu'il faut que les femmes se mettent aussi à l'écriture ou osent même envoyer leurs manuscrits, parce qu'elles écrivent, mais parfois elles n'osent pas envoyer et franchir le pas. Pourquoi y a-t-il un S à voix d'Afrique? Non pas un S à voix, mais à Afrique.
Parce que, oui, alors évidemment, on s'adresse à tous les auteurs d'Afrique, avec un S à Afrique, parce que ça va d'Alger à Madagascar, y compris dans les pays anglophones, mais où ceux qui nous enverraient leurs textes l'auraient écrit en français.
Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie Stefanini, merci Abdourahman Ouaberi, et donc si l'on doit retenir une adresse aujourd'hui, c'est prix-rfi.édition/jclattès.fr, ce sera bien évidemment sur le site de l'émission. De vive voix, Pascal Paradou, Véronique Durand, Julien Lingue, on se retrouve demain.